Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois micro. Diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada en 1972, notre invité fut la voix de Perlin, le père de Canel et Pruneau dans l'émission Passe-partout. Il a personnifié Pierre Jutras dans la série Jeunesse avec le temps, milieu des années 70, et celui de Rémi Bouchard dans Marisol, scénarisé par Micheline Bélanger et Gérald Tassé, et diffusé au début des années 80 sur le réseau TVA. Il se consacre maintenant beaucoup à l'écriture et vit surtout dans le silence. Avec nous, un grand honneur que d'accueillir Robert Maltais. Bonjour.
Un grand bonheur d'être là, Armand. Merci.
Ça fait longtemps qu'on vous a vu parce que je pense que votre dernier passage au gré du temps remonte à presque 10 ans.
Ça ne m'étonne pas. La vie passe tellement vite.
C'est vrai. Hein?
Oh! Moi, je suis rendu à 75 ans et il me semble que j'avais 20 ans hier.
Il s'en est passé quand même des choses depuis 10 ans.
Oui, mais elle passe.
Elle passe. Je voudrais revenir sur la notion d'écriture parce que vous y consacrez beaucoup de temps. Vous avez beaucoup écrit depuis 10 ans.
C'est pas tout à fait juste. J'ai toujours écrit. C'est l'ancien abbé de Mistassini qui m'avait fait réaliser ça. Il m'avait dit, quand j'ai publié mon premier livre, il m'avait dit, dans le fond, maintenant tu publies, j'avais 13 000 pages de journal.
Quand
j'ai
même.
J'ai toujours écrit depuis que j'ai compris que je ne me comprenais pas.
Parce qu'il me semble, personnellement, qu'il y a une mèche que j'ai lue, Le Curé du Myland, et il y en a eu d'autres par la suite. C'est presque une heptade, en fait.
C'est une heptade. Il reste le 7e à écrire. Comme je viens de publier le 6e, et que le 7e a beaucoup d'importance, parce que ça a un sens. Ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras. C'est la lumière blanche qui frappe le prisme, qui se divise en 7 couleurs, et je suis allé dans chaque couleur, et maintenant j'arrive à la dernière. C'est une grosse commande.
Et ça m'amène justement à vous dire que tout ça, c'est une quête. Cette écriture, c'est une quête, une quête de sens.
En fait, l'écriture est une quête, ma vie est une quête de sens. J'ai reçu, à l'âge de 6 ans peut-être, une information majeure. J'ai appris que j'allais mourir. Il y a des gens qui continuent leur vie en courant, sans vouloir accepter ça, garder juste une peur. Moi, j'ai dit, jeune, là, je vais mourir, mais là, je suis vivant, puis je veux comprendre.
Et à partir de cette...
Petit. Je viens d'un milieu assez difficile. Chez moi, c'était pas la pauvreté culturelle, mais c'était la pauvreté matérielle. Ma mère enseignait, elle avait été élevée par les sœurs, donc elle parlait bien, etc. Puis elle enseignait à l'école primaire, mais faire vivre 7 enfants avec un salaire de maîtresse d'école dans les années 50, vous avez une idée de ce que ça donne.
Parce que le père était absent?
Mon père s'est retiré. Il est parti. Comme ça est arrivé assez souvent dans ces années-là. Et c'était pas un mauvais gars. C'était un pauvre gars perdu. Comme il y a une misère des hommes qui est inconnue, qui n'est jamais dite, mais il y a une vraie misère des hommes. Et j'ai retrouvé mon père, on s'est parlé par la suite dans sa vie. Et un soir, c'est la dernière fois d'ailleurs qu'on s'est parlé avant qu'il meure, il m'a dit, t'es le seul qui a l'air à comprendre ça. Parce que on choisit pas d'abandonner ses enfants. On choisit pas ça. C'est comme un malheur. Et on peut faire d'un malheur un malheur permanent. On peut le prendre et en faire quelque chose. Ainsi en est-il de l'information qu'on va mourir. Moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose Et j'ai eu du fun.
Et c'est ce que vous avez fait aussi par les métiers que vous avez exercés. Vous me disiez 13 000 pages, par exemple, d'écriture de votre journal. Il y a une quête aussi quand on écrit son journal.
C'est évident.
Quand on personnifie des personnages qui peuvent être très différents les uns les autres, quand on est comédien, là aussi, on essaie de trouver qui sommes-nous vraiment, non?
La vraie quête du comédien, c'est la vérité. On cherche la vérité et les meilleurs acteurs vont vous dire « moins j'en fais, plus ça passe ». Et c'est une des choses les plus difficiles à apprendre dans n'importe quel métier, mais encore plus dans un métier où l'émotion est touchée.
Tout au cours de cette émission, on va écouter de la belle musique. On va être inspiré par des musiques qui sont issues peut-être de cet univers du silence. La première pièce, elle est de Nicette Hertas. Elle porte tout simplement le titre de « Silence ». Robert Maltais est avec nous. Le silence, vous parliez de vérité aussi. C'est intéressant parce que quand il est question de silence, il y a des choses merveilleuses qui se sont écrites sur le silence. Et une, entre autres, qui fait référence un peu à ce que vous disiez, qui est d'Antoine de Saint-Exupéry, et qui disait dans Citadelle, « Connaître une vérité, peut-être n'est-ce que la voir en silence. » Ça vous rejoint, ça?
Ouais. Je sais pas, c'est... auditrices et auditeurs, vous avez entendu les 3 secondes de silence qu'on vient de laisser passer. C'est riche. Il y a des fois, on est en conversation avec quelqu'un et on sait que la personne va dire quelque chose si on lui laisse le temps. Entre autres, avec nos enfants. C'est très porteur. J'ai commencé à vivre dans le silence au début de la trentaine. Et c'est là que je me suis mis à écrire mon journal. Et je me réveillais le matin et au lieu d'ouvrir la radio, au lieu de mettre un disque, parce que c'était à l'époque où il y avait encore des disques, j'ouvrais mon journal. J'avais une plume fontaine que j'ai toujours, mais je suis rendu à la 3e, là. Et j'écrivais 3 pages, systématiquement, 3 pages chaque matin, et je ne relisais rien. Je laissais, et ça partait ma journée. Ça me recentrait pour la journée. Ça a été long avant que je comprenne jusqu'à quel point l'écriture est importante pour moi. Et beaucoup plus tard, je me suis rappelé, je suis de l'âge d'avoir fait le cours classique.
Oui.
J'étais en rhétorique, donc ça doit me donner 13e année à peu près. Et l'abbé Leboeuf nous avait donné un travail à faire.
Mais c'était à quel collège?
Le séminaire Marie-Reine du clergé de Saint-Jérôme de Métabetchouane au lac Saint-Jean jusqu'en rhétorique et les 2 philos au séminaire de Chicoutimi.
D'accord.
Et je me souviens que j'étais dans ma chambre, j'étais pensionnaire, le soir, et j'avais écrit 8-9 pages, et j'ai connu là un état de bonheur que j'ai retrouvé dans d'autres circonstances, entre autres amoureuses, mais un état de bonheur que j'ai pas réussi à identifier.
Est-ce cela qui vous a amené un jour à vous retrouver parmi les moines?
Ça, c'est une expérience assez étonnante. J'étais allé faire une retraite, comme ça se faisait à l'époque, et le vendredi, on nous avait dit, si vous pouvez, ne dînez pas. Mangez pas le midi. Et j'étais allé faire le chemin de croix à l'époque, et devant la station de la crucifixion, j'ai eu une espèce de malaise cardiaque. J'ai eu peur de mourir. Et j'ai décidé de donner toute ma vie comme ce que je voyais. J'étais chrétien, catholique, pratiquant, dans ma culture canadienne-française de l'époque. Et j'ai décidé de devenir moine. Et à la fin de mon année scolaire, je suis allé à la trappe de Mistassini. Il y avait encore les grilles, la tonsure et tout. Et après 8 jours, j'ai demandé qu'on m'accepte. Et le moine m'a dit, non, t'es trop jeune, tu reviendras. Je me serais crucifié sur le monastère, dans le silence, en cherchant quelque chose de plus et je ne sais pas quoi. Et je poursuis cette quête-là. Je n'ai pas envie de faire autrement. Donc, j'ai joué au théâtre longtemps. Et un jour, j'ai fait « En attendant Godot » de Samuel Beckett, qui est une grosse pièce, là. J'ai joué à Stragon, et je n'avais eu, à Toronto, je n'avais eu que des bonnes critiques. Et le plus important, pour la première fois de ma vie, j'ai dit « Coudonc, je suis bon ». Et ça ne m'intéressait plus après.
Oh.
On vient d'entendre le chœur des moines de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, Memorare, et avec nous, Robert Maltais, comédien, mais je n'aime pas l'épithète comédien, avant tout être humain.
Oui, je vais vous dire, je suis un artiste, c'est-à-dire que je vis de la création.
Oui.
Je fais de l'art. Je me définis comme ça. Je suis dans l'union des artistes et ça porte très bien son nom.
Vous parliez tantôt de votre expérience lorsque vous étiez très jeune où vous avez failli mourir. Une autre citation, elle est d'Alexandre Dumas, extrait du Comte de Monte Cristo. Il pose la question « Qu'est-ce que la mort ?» Et la réponse « Un degré de plus dans le calme, et deux, peut-être, dans le silence. Est-ce que la mort vous effraie?
Non. J'ai eu peur de mourir, souvent, mais c'est l'acte de mourir, c'est pas la mort. Pour moi, c'est du même ordre que quand je suis sorti de ma mère. Les eaux se sont écoulées, panique dans le bateau, il n'y a pas de place pour sortir, je fonce par la seule porte qui a l'air possible, mais je passe dans un énorme trou noir et je ressors dans une lumière si éblouissante que je me mets à pleurer. Je crois que c'est ça qui m'attend.
Une nouvelle naissance.
Je crois que je suis passé de l'eau à l'air et que là, j'aurais passé de l'air à la lumière.
Est-ce que entre les deux, entre ce passage vers la lumière, on ne se retrouve pas trop souvent dans la vie seul?
On est seul. C'est comme ça. Mais si on réalise vraiment ce que ça signifie, c'est dit dans toutes les traditions, c'est « je suis ». Je suis. Mais ça a des réverbérations dans l'univers entier. Mais chacun est je suis, ce qui fait que nous sommes tous en communion.
Serge Fiori, seul.
Seul dans ta chambre, seul dans ta tête, au bout de tes membres, tu gardes et tu jettes ce qui ressemble à ta silhouette. Tu voudrais choisir les moments d'ivresse et laisser partir tous ceux qui te blessent, mais tu n'es plus sûr de leur adresse. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le film au ralenti de ta vie avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, qui ne parviennent jamais jusqu'à moi, jusqu'à moi. Yeah, yeah. Devant la télé, le son est fermé, juste des images. Visage déconnecté. Devant la fenêtre, le rideau baissé, y'a plus d'hiver, y'a plus d'été, juste une lumière tamisée. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir fait le mot ralenti de ta vie avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, qui ne parviennent jamais jusqu'à moi. Jusqu'à moi. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le film au ralenti de ta vie avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, parviennent jamais jusqu'à moi.
Robert Maltais est avec nous. Robert, je vais vous lire un extrait de Proverbes du silence et de l'émerveillement, un livre de Michel Camus. Ça n'a rien à voir avec Albert Camus, il n'est même pas parent avec lui. Ce poète et essayiste a écrit ce qui suit sur le silence. Il y a du silence dans la musique de la langue, comme dans l'arbre et la pierre, et le feu et le vent. Qui l'entend? Qui a jamais vu l'informelle substance du silence? Fertile abîme, cordon ombilical du merveilleux, et si le silence était, sans métaphore, notre seul transport dans l'infini? L'art n'est pas le seul langage du silence, mais l'univers, l'œil, l'extase et la beauté, comme des fenêtres ouvertes, aveuglées de soleil. On rejoint un peu ce que vous veniez de nous dire par rapport à l'art, la création, ce passage où on se retrouve peut-être avec la crainte de l'abîme, mais où on va retrouver une lumière. Et c'est ce qui vous anime dans cette vie sur Terre?
J'ai une chance. J'aime la vie. J'ai reçu ce cadeau immense d'aimer vivre. J'aime ça. J'aime l'air, j'aime le vin, j'aime la bière, j'aime la beauté, j'aime le théâtre, j'aime le sport. Je regarde même des fois le Canadien. Il y a des moments plus déprimants, il y a des grandes joies.
Absolument.
J'étais là devant ma télévision quand on s'est rendu en finale, presque en finale. Oui. Là. J'ai tout vécu ça. Avec le même bonheur. J'ai une capacité et un appétit immense. Ça, c'est un vrai cadeau. Alors, j'aime la vie. Je trouve que quelqu'un qui a le bonheur d'aimer la vie devrait se rendre compte de sa chance et la partager, car comme dit le Yiking, joie partagée, joie redoublée.
Alors, la vie dans sa plénitude. Mais qu'est-ce que c'est que pour vous que vivre dans le silence, en dépit du fait que vous puissiez profiter de toutes ces beautés du monde?
Chez moi, j'ai la chance de ne pas être dérangé autrement que par le peuple qui m'habite. Ça jase là-dedans. Il y a du monde. Il y a déjà assez de monde. Et tout a un prix. La solitude, ça n'a pas à être l'isolement. Mais la solitude a son poids. On accepte de le porter parce qu'on trouve que ça vaut la peine d'apporter son lunch, même s'il y a du poids. C'est pareil pour ça. C'est des choix. Je préfère ça. Sylvain Lelièvre disait « Vaut mieux être seul que mal accompagné. »
Et vaut mieux aussi vivre l'instant présent intensément. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, la vie m'a fait un clin d'œil. Sur le trottoir devant la boulangerie, en allant chercher du lait, du pain et du beurre, j'ai perdu pied sur une peau de bonheur. Chavirais pieds nus, tout ébloui, je danse sur la rue. Je sais sur quoi me reposer. J'aime la vie. La rue Papineau saute à la corde, se balançant du soleil à midi. Le soleil plonge à pieds joints dans l'air du matin, éclaboussant tout le ciel bleu d'été. Chavirais pieds nus, tout ébloui, je danse sur la rue. Je sais sur quoi me reposer. J'aime la vie. Je danse sur la rue, je sais sur quoi me reposer. J'aime la vie. Debout sur un flot de lumière blanche, je suis passé à travers l'habitude, par-delà les ombres de la solitude. Je mouille l'âme en un océan de grâce. Chavirais pieds nus, tout ébloui, je danse sur la rue. Je sais sur quoi me reposer. J'aime la vie.
Robert, aujourd'hui, la chanson qu'on vient d'entendre, merveilleux, c'est un album qui a été publié en 1978. On l'écoute aujourd'hui et on se dit, comment se fait-il que cet album n'ait pas connu plus de succès? Parce que la chanson est un exemple, un reflet des autres chansons qui se retrouvent sur l'album, qui d'ailleurs ont été musicalement composées par Michel Robidoux, qui est décédé le 1er novembre dernier. Vous en avez gardé un bon souvenir de cette production?
Le meilleur souvenir que j'ai de cette production-là, c'est la création des chansons avec Michel. Bon, j'ai des enfants, beaucoup de gens qui nous écoutent ont des enfants. C'est de l'ouvrage, élever des enfants. Les rendre à l'école, les rendre à l'université, au départ les rendre propres nécessairement, mais il y a un moment où il n'y a aucun effort. Il n'y a que du bonheur, c'est quand on les fait.
Alors, quand on fait une chanson, ce n'est que du bonheur.
Ce n'est que du bonheur. Michel arrivait chez moi en début d'après-midi, jouait de la guitare, commençait on a un couplet, on a un refrain. Des fois, ça prenait deux jours. Puis là, j'ai dit, OK, laisse-moi ça. J'enregistrais. Et là, moi, j'écrivais. J'écrivais. Et quand je pensais que j'avais une chanson, je disais, regarde, Michel dit ça. Je disais, oh oui. Et c'est comme ça qu'on les a faites une après l'autre.
Seriez-vous d'accord pour dire que cet album est sorti trop tôt, qu'il était en avance sur son temps?
C'est pas à moi à dire ça.
Alors, moi je le dis.
Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il existe toujours. Il y a quelqu'un qui a mis ça sur son YouTube, son canal YouTube. Il y a des gens qui l'écoutent. Il est sorti au moment où il est sorti et il a fait ce qu'il avait à faire dans ma vie à moi. Je n'ai pas envie de répéter les choses ad nauseam.
Mais c'est ça le bonheur de la création. On met au monde un enfant, un album, et ensuite il vole de ses propres ailes. Il peut vivre longuement sans que vous n'ayez à vous en occuper.
Et je ne m'en occupe pas. Au départ, peut-être que oui. Ça aurait pu être mieux fait.
D'accord.
Mais on ne sait jamais. Peut-être que c'est très bien comme ça. Je choisis cette option.
Thank you.
Musique inspirante pour la méditation. Je présume que vous méditez beaucoup à votre façon.
J'ai eu une période où j'ai beaucoup médité parce que la question du monastère ne s'est pas réglée comme ça. Hein. La première série que j'ai faite avec le temps,
oui.
Normand Gélina et Louise Matteau, parce que je partais, moi, je prenais des vacances et j'allais au monastère.
Et ça, c'est un agréable souvenir pour les gens de ma génération.
Ben oui.
Et pour beaucoup de monde.
Pour nous autres aussi.
Oui.
Tu sais, mon ami Marc Messier vient de faire son premier spectacle solo. Là. Il est en tournée.
Oui,
là.
Exact.
Et je suis allé à sa première à Montréal. On était tellement contents. C'est des liens qui... Mario Lirette, Jean-Pierre Bergeron, Véronique Leflaguet, c'est des liens qui sont là pour toujours. Et pour les 70 ans de Louise Matteau, on s'est tous rencontrés. On est allés manger ensemble.
Racontez-nous, avant d'aller plus loin, comment est venue cette idée d'émission? Parce que on avait vraiment l'impression que vous aviez du plaisir à être ensemble, que c'était une véritable commune dont on était un peu les voyeurs.
Eh bien, c'est une impression. Ça a été fait par la section jeunesse de Radio-Canada qui voulait tenter quelque chose. Et Louise Matteau et Normand Gélina ont écrit des textes, ils ont proposé, et nous avons tous eu nos rôles par audition. Nous avons tous passé une audition au troisième sous-sol de Radio-Canada. Il y avait une file de jeunes comédiens énormes, et puis on a été choisis. Mais Maurice Falardeau, qui était le réalisateur principal, sentait. C'était un artiste. Et il a formé une équipe.
Et c'est à l'époque aussi des belles années de la section jeunesse de Radio-Canada, qui était dirigée à l'époque par M. Roy, j'oublie son prénom, mais qui a fait beaucoup dans l'innovation. Je me souviens d'avoir participé moi-même à un quiz qui a fait plusieurs années, Génie en herbe. C'était encore une idée de M. Roy. Il est allé chercher aussi des créateurs pour les bandes dessinées québécoises, des dessins animés québécois. Alors, il y avait vraiment là, comme une espèce de plasma dans lequel on pouvait jouer. Un magma là, de créativité extraordinaire.
On arrivait là pour déjeuner le matin. On allait tous déjeuner à la cafétéria ensemble tellement on avait de plaisir. On avait de la chance. Écoutez, jeune comédien avec une série Radio-Canada, c'est quand même du bonbon.
Et ça peut lancer une carrière.
Ça lance une carrière. De toute façon, ça donne une certaine confiance.
Tout à fait. Est-ce que vous avez maintenu contact avec tous ces gens qui vous côtoyaient dans le cadre de cette émission, avec le temps?
Certains plus que d'autres, oui. Pour toutes sortes de raisons. Vous savez, dans notre métier, probablement que c'est vrai dans tous les métiers, on commence une production avec un groupe. On devient très, très proche. La production se termine. On part faire autre chose, on rencontre un autre groupe et on devient très, très proche de ces gens-là. Mais, quand le lien est véritable, même si ça fait 15 ans qu'on s'est vu, on se revoit et le lien est toujours là.
Parfait. Alors, on referme la parenthèse, on revient à la question initiale où on parlait de méditation. Est-ce qu'il vous arrive de méditer à votre façon? Constamment? Parce que vous nous avez dit que l'histoire du monastère, ça ne s'est pas réglé aussi facilement que ça.
Non. Alors, j'ai travaillé, et je me suis retrouvé à un moment donné à la Place des Arts en ayant créé le concours Ma première Place des Arts.
Oui.
Et là, je me suis rendu malade. J'ai tellement travaillé que mon cœur s'est mis à faire de la fibrillation auriculaire paroxystique. C'est-à-dire que le carburateur avait dératé. Et j'ai retrouvé ce que j'avais vécu devant le crucifix en rhétorique pendant la retraite. Et j'ai dit, je suis pas heureux. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Mon rêve, c'est de devenir moine.
Alors, la prise de conscience revenait.
Et, en 99, j'ai tout laissé, et je suis parti dans un monastère, et j'étais parti 2 ans et demi.
En Europe.
Ici, pour commencer, au lac Saint-Jean, à mon monastère d'origine, et après, en Bourgogne, à l'abbaye de Cîteaux, parce que les cisterciens ça veut dire cistelle, c'est la quenouille, parce que c'était un marais, donc, d'où les cisterciens. Et c'est là que j'ai découvert que c'était le temps que j'écrive. Mais la méditation...
Da Pacem Domine, c'est une composition d'Arvo Pärt, et on vient d'entendre l'orchestre philharmonique de chambre estonien sous la direction de Paul Hillier, et le chœur était aussi sous sa direction. Robert Malte, vous dites oui, méditation, ça vous a donné l'envie d'écrire. Vous avez publié, vous disiez tantôt que vous êtes à compléter votre heptade. Quand on lit ces romans, on sent bien que ça sera une longue route pour parvenir à quelque chose dont on ignore encore la fin. Mais on sent qu'il y a là un grand travail. Je dirais, vous êtes un laboureur.
Ah, j'aime ça. Il y a une chose que je dois dire qui m'apparaît importante, c'est qu'il y a la méditation et il y a aussi la prière. Pour moi, la prière, c'est me rendre disponible à l'espace divin. Je me rends dans un lieu intérieur où j'accepte que soit possible l'un, L'UN. Mm-hmm. Et on revient à ce que je disais plus tôt, je suis et la base de beaucoup de ma méditation.
Je vais revenir à un autre extrait de Proverbe du silence et de l'émerveillement de Michel Camus. Ça porte justement sur les livres que l'on n'ouvre pas. Les livres que l'on n'ouvre pas sont murés dans leur silence. Il arrive qu'ils nous fassent signe et nous émerveillent, tandis que la mutité des murs nous repousse. Il arrive aussi que les murs, l'éclair d'un instant, deviennent comme des livres, des fenêtres ouvertes dans l'infini. Vide de soi, voir par miracle, merveilleusement vide de soi, l'homme du silence se souvient-il du silence d'avant l'homme? Et je serais presque porté à vous reposer cette question, parce que vous aussi, vous êtes l'homme du silence. Est-ce que vous avez cette souvenance du silence d'avant l'homme quand vous parliez de ce passage merveilleux et qui vous amènera vers un autre passage ultérieurement, vers la lumière?
Un après-midi, j'étais dans la nef de l'abbaye d'Oka. Et mon cœur battait mal. Donc, j'étais inconfortable. Et puis, il s'est passé, je ne peux pas dire vraiment quoi, il s'est passé ceci. Tout est devenu simple. Le poids m'a quitté. Et c'est ça le silence, c'est austère.
Je cherche la source où l'air et l'eau jouent dans la mousse, où le soleil mouillé de bleu peint l'arc-en-ciel au-dessus d'eux. Thank you.
On vient d'entendre La Source, encore une fois, composition de Michel Robidoux, parole Robert Maltais. C'est drôle que cette pièce survienne après ce que vous venez de nous dire.
Ouais, c'est même assez étonnant, je trouve. Je trouve que les choix sont bons jusqu'à maintenant.
Mais vous aviez, on le voit, vous aviez des choses à dire en 78 que vous pourriez redire aujourd'hui. J'espère qu'on va redécouvrir cet album.
Ça serait très agréable. Mais je ne peux que dire, il existe, il est là, il est disponible. Il est même sur YouTube.
Dans tout ce que vous avez fait, Robert, comédien, écrivain, vous avez aussi, vous l'avez dit, touché à la chanson. Vous avez créé ce festival de Ma Première Place des Arts et qui fonctionne encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a une plus grande importance?
C'est pas là qui est le plus important. C'est mes deux enfants. C'est de très loin.
Ça dit tout. Vos enfants, dans le fond, ce sont vos chansons. Ce sont des chansons des enfants.
Mes enfants sont mes guides. Mes enfants m'apprennent à aimer. Je ne savais pas que j'avais en moi une telle capacité d'aimer avant d'avoir des enfants. Et je ne les ai pas choisis et voulus. Je ne voulais pas particulièrement avoir des enfants. Ça a donné que l'action qui menait à ça m'intéressait. Et j'ai accepté les conséquences. Merci, mon Dieu.
On va terminer sur une petite citation de Shakespeare, vous qui êtes comédien, sur la profondeur du silence. Shakespeare a écrit, « C'est à l'endroit où l'eau est la plus profonde » qu'elle est la plus calme. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné. Robert, on va vous demander de nous revenir la semaine prochaine.
Certainement.
On a tellement de belles choses à s'échanger. Et le temps de vous dire aussi qu'il y a d'autres émissions qui vont suivre à l'antenne, alors restez des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine où on poursuivra cette merveilleuse discussion avec Robert Maltais, dis-je bien, écrivain, être humain tout simplement.